Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La session ordinaire du mois de mars au Parlement s'ouvre ce lundi 16 mars 2020, conformément à la Constitution. Cette session est légalement consacrée à la législation et contrôle parlementaire. Certains observateurs estiment que les députés devraient se pencher sur l'amélioration des conditions de vie de la population, la lutte contre la corruption et surtout la sanction à infliger aux mauvais gestionnaires. Qu'en pensez-vous? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine. Alain Goy est à la mise en onde, de Gilles Lungembo à la réalisation. Et Pierrot et la Mégis, c'est pour moi un réel plaisir de vous présenter cette émission. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégis.
Quelles pourraient aussi être d'autres priorités pour vous pour cette session du mois de mars 2020? Nous sommes ensemble pour 55 minutes d'échange dans Parole aux auditeurs. Et pour en parler, nous avons associé à cette émission John Banza Lunda, député national élu de Kalemie dans le Tanganyika. John Banza, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, on sait que la session du mois de mars intervient après un long moment des vacances parlementaires. Alors, dans les coutumes, quels devraient être les points clés de cette session qui s'ouvre en début de semaine prochaine?
Oui, je pense que dans les principes, vous l'avez déjà énoncé, il s'agit de légiférer et contrôler. Légiférer, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'initiatives de nos collègues députés qui étaient déposées au bureau de l'Assemblée nationale. Et comme nous avions la session budgétaire qui venait de s'achever, et donc on n'a pas eu assez de temps pour le faire, et donc on va revenir sur les multiples initiatives parlementaires pour essayer de finaliser certaines propositions de loi. Il s'agit par exemple de la proposition de loi sur la lutte contre la corruption. Il y a aussi la proposition de loi qui concerne les personnes vivant avec handicap. Et évidemment, il y aura aussi l'audition du rapport général du cycle électoral. Et voilà, ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, nous allons faire le travail de contrôle, de contrôler le gouvernement. La première chose, je pense que comme nous avons déjà les budgets 2020, la commission ECOFIN va essayer de d'évaluer, de suivre un peu l'exécution du budget que nous avons adopté il y a quelques mois.
Et ça, ce sont les éléments clés, hein. Mais on sait que chaque fois, dans plusieurs de nos débats, on est revenu sur la question de faiblesse en ce qui concerne les contrôles parlementaires. Y a-t-il une dynamique nouvelle aujourd'hui par rapport à la question des contrôles parlementaires?
Écoutez, nous avons un rôle à jouer, c'est que nous avons le besoin de la population et que nous, en plus, nous venons des vacances parlementaires, nous venons des bases, nous avons vu et vécu les difficultés dans lesquelles nos populations vivent. Il y a des urgences, il y a des situations qu'on ne peut pas laisser passer. Et il y a, par exemple, pour le cas du Tanganyika, du territoire de Kalemie, il y a la guerre qui se passe en ce moment au niveau du territoire de Nyunzu, qui a une conséquence énorme sur sur l'économie nationale, sur la paix, la sécurité nationale. Et donc, ce sont des questions urgentes. Il y a des milliers, des centaines de milliers de déplacés qui déferlent de Niouzou ou vers les autres territoires environnants. Et nous sommes obligés de voir avec le gouvernement. Nous allons avoir des réponses concrètes pour que nos populations soient sécurisées, travaillent normalement et œuvrent pour le développement de notre pays. Ça c'est d'un côté. Moi-même personnellement, j'ai eu une initiative adressée à Madame la vice-première ministre chargée du plan, pour qu'elle nous dise comment, et là, elle mobilise les financements pour appuyer le développement de notre pays dans le cadre des engagements que nous avons eus au niveau national. Donc, la dynamique est là, et vous verrez que le contrôle parlementaire va être effectif, et que la population qui nous a envoyés ici verra et trouvera des solutions aux problèmes quotidiens.
Alors, vous avez évoqué la question de rapport pour sur les vacances parlementaires. On a 500 députés, chacun a autant de rapports, des faits qu'il faut déposer. Alors, pratiquement, comment ça s'est fait? Est-il possible aujourd'hui que l'ensemble des rapports déposés et que chaque territoire, chaque problème qui se pose dans la circonscription de chaque député soit suivi au niveau du Parlement ainsi que du gouvernement pour trouver des solutions?
D'abord, il y a des problèmes d'ordre général hein, qui concernent presque tous les territoires. C'est d'abord la sécurité. Ça c'est partout. La paix, la sécurité, c'est partout. Donc, c'est une question qui nous lie tous. Et bien que nous ayons 55 territoires, mais nous avons un seul et même pays. Et donc, les problèmes majeurs, les problèmes du développement touchent à tous les territoires. Donc, il y a des problèmes communs, les problèmes qui touchent tous les territoires, mais il y a aussi des problèmes spécifiques. Et comme nous avons pour chaque député un mandat national, et donc nous avons la vocation de suivre tout ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Alors, les députés déposent le rapport des vacances parlementaires auprès du rapporteur adjoint, et le rapporteur adjoint va faire le condensé et voir dans quelle mesure rencontrer les différentes préoccupations. Nous avons vraiment une tâche énorme, parce que les défis sont très nombreux. Et ici, c'est l'occasion de dire que notre rôle en tant qu'élu représentant du peuple, c'est que nous avons eu ce mandat et que nous avons un sursis. Nous avons eu la première année, et les sursis ne peuvent pas être éternels. Donc nous allons faire bouger les lignes. Nous sommes obligés de faire bouger les lignes pour que les populations qui nous ont envoyés ici puissent vivre mieux qu'hier.
Merci. On va écouter les auditeurs hein, qui sont nombreux à vouloir s'exprimer sur cette session qui s'ouvre le lundi prochain pour ce mois de mars. Meshak, vous êtes à Goma. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup. Je suis Meshak depuis Goma. Je voulais réagir par rapport à la question du contrôle parlementaire, qui est une question que le gouvernement, que la loi avait déjà prévue. Et là, il y a beaucoup de rapports qui sont déjà intervenus, et quand il s'agit du contrôle, mais le contrôle reste dans le tiroir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une suite favorable par rapport au contrôle. Mais le contrôle se fait, il n'y a pas de tension, les ministres sont interpellés, mais il n'y a pas de suite. C'est-à-dire, pour le moment, nous pensons que le Parlement doit, une fois, le Parlement doit se mettre. Donc, je dois assister la question de votre pays et se mettre à appliquer les sanctions. Mais peut-être qu'il y a besoin de voir des actions. Mais peut-être qu'il y a besoin de voir des actions. Il y a beaucoup de lois qui restent dans le tiroir. Il y a beaucoup d'autorités qui ont été mandatées pour exécuter les missions de la fonction publique. Et là,
Voilà, des petits soucis des lignes avec Meshack de Goma. Meshack insistait beaucoup sur le fait que la question de contrôle parlementaire, chaque fois, il y a des ministres des fois qui sont interpellés, il y a des questions orales ou soit écrites, il y a autant d'actions qui sont menées au niveau du Parlement pour, sur les membres du gouvernement, mais la plupart des cas, on n'a pas de sanctions qui suivent. Cela veut dire qu'il faudrait qu'au niveau du Parlement, on puisse conclure... qui a eu une violation, et comme ça, on peut sanctionner. Il voudrait vraiment voir les députés sanctionnés, ceux qui sont contrôlés et qui ont été trouvés coupables. Merci beaucoup, Meshack. Pascal, vous êtes à Mbujimayi, bonjour. Pascal, vous êtes avec nous, bonjour. Des petits soucis, hein, des lignes avec Pascal. Nous revenons à vous, John Banza Lunda, député national et élu du territoire des Kalemie dans les Tanganyika. Vous avez suivi notre ami de Goma, il est revenu sur la question d'interpellation. Chaque fois, on voit quand même que le Parlement contrôle, il interpelle les ministres, mais rarement on a vu vraiment des sanctions déclenchées au niveau du Parlement. Est-ce que peut-on avoir une nouvelle vision aujourd'hui autour de la question des contrôles parlementaires avec sanctions?
Oui, il y a un principe, c'est que le contrôle est évidemment constitutionnel, c'est ça la règle, la sanction elle est aussi prévue, mais on ne peut pas sanctionner pour faire plaisir, pour faire du spectacle. Donc quand un député prend l'initiative d'interpeller un ministre, et donc il y a tout un processus qu'il faut suivre, et que c'est à l'issue du processus qu'on va évaluer si il faudrait sanctionner, soit positivement, soit négativement. Et à ce moment-là, cela revient à l'Assemblée plénière. Et donc, je suis d'accord sur un certain scepticisme qui s'est installé dans notre imaginaire collectif, que on interpelle, les députés font leur travail et que le travail serait inabouti en fait. Cette fois-ci, je pense que avec les dispositions du règlement intérieur, donc il y a toutes ces garanties que si le mécanisme est déclenché et que le mécanisme va arriver jusqu'au bout. Donc, lorsque un ministre sera interpellé toute la procédure sera respectée, et si nous constatons que le ministre n'est pas les réponses du ministre ne sont pas à la hauteur des attentes de l'Assemblée nationale, eh bien nous allons tirer les conséquences. Mais nous ne pouvons pas sanctionner le ministre pour faire plaisir, même s'il n'est pas coupable. Donc nous serons c'est ça l'état des droits. Donc il y a les droits de contrôler, il y a le pouvoir de contrôler, il y a aussi le pouvoir de dire que voilà, il est coupable ou pas. Et donc nous pensons que vu les enjeux actuellement, nous sommes condamnés à aller un peu plus en profondeur dans des questions vitales, parce que moi je suis profondément attaché au processus de développement de notre pays. Nous avons eu à déclarer ici il y a quelques années que en 2030 notre pays devra passer à l'étape d'un pays émergent. Mais écoutez, qu'est-ce que nous faisons pour que en 2030 nous puissions être un pays émergent? Nous avons dit qu'en 2050 nous devons être un pays développé, mais qu'est-ce que nous faisons au jour le jour? Nous avons passé, nous politiques, nous avons brûlé, nous avons gaspillé toute une année avec des négociations politiques, et alors en oubliant que ces négociations interminables ont hypothéqué le processus de développement, et qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020, nous sommes en train de rechercher les ressources, nous avons oublié que nous avons perdu toute une année en train de négocier sur le plan politique. Donc il y a des choix à faire, et moi je suis scandalisé de voir que collectivement, nous politiques, nous ne pensons qu'à la politique. Alors que la vie de la nation est au-delà de la politique. Donc, il y a un temps pour faire la campagne électorale, mais maintenant, là, c'est le temps de travailler, de mettre les bases pour le développement.
Merci.
C'est important.
Ok, on va écouter, oui, on va revenir à vous. Hein. On écoute Olivier qui est à Kikwit, Jérémy Albumbashi. Olivier, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, Pierrot, bonjour et bonjour à Monsieur John Banza que je salue.
On vous écoute, oui.
Oui, Pierrot, vous comprenez que le discours du genre que nous sommes en train d'écouter, c'est un discours qui revient tous les jours. Monsieur Banza est attaché au développement. Monsieur Banza est attaché à des bonnes choses. Ça, c'est des choses que nous attendons tous les jours. Nous voulons voir les faits. Et les faits, c'est quoi? Les faits, c'est que, comme venait de le dire mon prédécesseur, il faudrait que les gens soient sanctionnés. Mais Monsieur Banza nous dit, mais on ne peut pas sanctionner pour faire plaisir aux réclamations. Mais en fait, dans ce pays, qui a commis des péchés si ce ne sont que des ministres? Et beaucoup commettent des péchés. Nous, à la base, nous en commettons, c'est vrai. Mais à des degrés divers, les détournements, ce n'est pas nous. Ça, c'est une chose. Alors, moi, je voudrais qu'on comprenne que la population a besoin des choses beaucoup plus importantes que les débats politiques. Nous, à Kikwit, par exemple, Monsieur Pierrot, je vous rappelle que ça fait plus de 10 ans qu'on nous dit « Kakobola viendra demain ». Mais les députés ne s'en occupent pas. Kakobola viendra demain. Et nous attendons 2023, pendant les élections, ils reviendront. Et John Banza soutiendra cela. Ils reviendront pour nous dire, oui, Kakobola, c'est vrai, nous sommes en train de finir. Donc, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, très grave, c'est la sécurité. Et je n'ai jamais entendu un seul parlementaire s'adresser au ministre de la Défense, ni à celui de l'Intérieur. La Défense, j'ai l'impression que ça n'existe pas chez nous. Et donc, je pense que il faudrait que les députés comprennent que nous avons besoin des choses sérieuses. La sécurité, on n'en parle pas, et ça, c'est parmi les premiers grands problèmes qui vont même booster le développement. Sans sécurité, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut rien faire. Donc, je demanderai aux députés de voir ce qu'il y a de prioritaire pour la population. Alors, imaginez, voyez avec moi la loi sur la corruption. Faudra-t-il qu'on dise ne peut être sanctionné que celui qui a corrompu au-delà de 1 000 $? Non. La corruption, c'est une infraction depuis des années, mais il n'y a jamais rien eu. Nous avons suivi ce qui s'est passé dernièrement avec les sauts de moutons. On nous parle de détournement, on nous parle de corruption, mais nous attendons que le Parlement s'en occupe. Donc il ne faudrait pas qu'on nous dise on est attaché au développement, alors que dans le concret, il n'y a rien. Allô?
Merci beaucoup, Olivier. Alors, vous l'avez dit, c'est important. Il y a eu beaucoup de débats autour de financement de travaux, par exemple, des 100 jours des chefs de l'État. On parle de détournement. Et pour vous, vous attendez vraiment les députés sur cette question-là. Et vous souhaitez vraiment qu'il y ait des changements. Mais est-ce qu'il n'y a pas... les députés n'ont jamais interpellé le ministre de la Défense, les débats sur la sécurité? Pourquoi on n'en parle pas tellement au Parlement? On pourra voir avec notre invité. Est-ce que les questions de sécurité ne sont-elles pas abordées au niveau du Parlement? Merci beaucoup, Olivier. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour également à l'invité. Alors, nous saluons le sujet, la pertinence de ce sujet, ô combien important. Vous souviendra que lorsque les parlementaires prenaient leurs vacances, nous leur avons souhaité bonnes vacances. Maintenant, là, ils sont en train de regagner d'ici là l'hémicycle. Nous leur souhaitons de même bon retour. Maintenant, là, à cet effet, beaucoup de préalables ont été posés à gauche, à droite. À mon humble avis, Monsieur Pierrot, sans peur d'être contredit, chaque député particulièrement a eu dans sa gibecière l'épineux dossier relatif à l'insécurité qui constitue au jour d'aujourd'hui les dénominateurs communs presque dans toutes les 26 provinces. Je pense que personne ne me contredira. À un certain moment, je me pose la question. Ça a pris vraiment, quand vous regardez, une tournure vraiment, vraiment inquiétante. À un certain moment, je me pose la question, ce n'est pas un fait, c'est un sabotage ou quoi contre le nouveau régime? Ça ne va pas partout. L'insécurité est en train de prendre une dimension inquiétante. Et alors, on se pose des questions, est-ce que les autorités sont là en permanence pour ne puisse que vraiment avoir un œil regardant, pour ne puisse que mettre un peu, donc c'est-à-dire mettre de la, imposer la sécurité dans chacune des pays, dans chacune des provinces. Ce n'est pas sorcier. Il n'y a pas de la magie pour pouvoir imposer la sécurité. C'est question de mettre sur pied une politique c'est-à-dire créer un peu les rapprochements avec la population. Et les policiers avec la population, ils ne vivent pas à l'initié. Ce sont les mêmes gens. Ils doivent vivre en commun. C'est question de chercher à ce que la paix réside dans notre pays. Sinon, ça ne va pas. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, il y a aussi également aussi les dossiers relatifs au tribalisme. Ici, au Katanga, nous sommes en train de voir que ce virus est en train un peu d'avancer au fur et à mesure. Et alors, nous interpellons à nos autorités d'ouvrir l'œil et le vent. Question encore, de voir de plus près pour voir qui est le meneur, qui cherche à diviser les enfants du Haut-Katanga. Alors, il faut, ça c'est un fait. Je pense que les députés ont eu ces dossiers, ils doivent en parler en long et en large pour que nous ne puissions pas assister à des choses qui ne poussent pas, qui n'avancent pas la province du Haut-Katanga. Ça c'est un point. Et alors, et aussi un point relatif, n'est-ce pas, à la dégradation socio-économique dans notre province et partout dans les pays en général. Donc, il faut maintenant qu'on puisse mettre sur pied. Je vous assure que ici, en province, comme au Katanga, depuis que la farine a gardé le prix à hauteur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une politique adéquate pour ne fût-ce que satisfaire ces paisibles citoyens au jour d'aujourd'hui qui passent des moments très difficiles.
Alors, si on vous a bien suivi, Jérémy, vous vous êtes focalisé sur cette question de l'insécurité, pas seulement dans les Haut-Katanga. Il y a d'ailleurs notre invité qui a parlé de Nyunzu dans le Tanganyika. Il y a Olivier qui est revenu là-dessus. Vous voulez que cette question de sécurité soit considérée par les députés comme une des priorités de cette session du mois de mars. Hein. C'est pourquoi même Olivier s'est demandé si le ministre de la Défense répond au Parlement autour de cette question. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine. Je rappelle encore que nous évoquons la session parlementaire du mois de mars 2020 qui va commencer, l'ouverture, ça sera le lundi 16 mars. Nous parlons des priorités pour cette session. Vous êtes nombreux à vouloir commenter. Directement, on donne la parole à Lola qui nous appelle de Watia. Lola, merci d'être avec nous. Bonjour. Lola, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, des petits soucis hein, avec Lola qui... Lola, vous êtes avec nous?
Ah oui, je vous écoute.
Oui, on vous écoute, Lola. Oui, c'est bien. Vous êtes en ligne, on vous écoute.
Merci beaucoup, Monsieur JR. Je pense que la préoccupation que le thème d'aujourd'hui, c'est par rapport même à la préoccupation que vous aviez eue au début des vacances parlementaires. Parce que vous aviez dit pratiquement cette émission que nous avions fait au début, c'est peut-être trop tôt, mais on pouvait le faire vers la fin des vacances parlementaires, vers le 15 mars. Je pense qu'aujourd'hui, la préoccupation que nous avons, selon moi, ce que je suis en train de voir, par rapport même à nos prédécesseurs, mes prédécesseurs qui ont parlé, je pense que le grand problème que nous avons dans notre pays, c'est chercher un peu à prioriser les préoccupations que nous avons. Nous avons tellement beaucoup de défis, mais si nous cherchons à commencer avec tout, nous ne saurons rien faire et on ne sentira pas l'impact. Parce qu'il y a des défis qui sont prioritaires, qui vont donner l'ouverture pour les autres. C'est le cas, comme les prédécesseurs ont dit, le problème est sécuritaire. Si nous avons la sécurité garantie dans notre pays, M. JR, tout va rouler de soi-même. Je m'explique. Même en matière diplomatique, les tournées que le président est en train de faire, même pour chercher les investisseurs, il peut faire beau des tournées, mais aussi longtemps que dans notre pays, il y a problème sécuritaire, ces gens risquent de ne pas venir. Moi, je pense que cette rentrée parlementaire doit chercher à nous trouver solution au niveau sécuritaire. Que dans notre pays, nous avons un organe qui s'occupe de la sécurité, entre autres les FARDC, qui doit protéger l'intégrité territoriale et les frontières, avec la police, la sécurité des personnes et des biens, on arrive à faire asseoir cette sécurité. Et automatiquement, vous verrez que les investisseurs viendront d'eux-mêmes, et même au niveau interne, la population pourra commencer à s'occuper de la culture, par exemple, faire les champs, pour que les produits intérieurs bruts puissent monter, et ça va créer la stabilité au niveau économique. Moi, je pense qu'on doit mettre l'accent. Dommage, monsieur GR, je ne sais pas s'ils vont rentrer avec quelles données des vacances parlementaires pour faire rapport là-bas. Parce qu'il y en a qui sont arrivés à peine ici, par exemple chez nous, vers le 8 mars ici, à l'occasion des journées de fête des mamans. Alors moi je ne sais pas quel rapport on doit faire, parce que c'est ça qui était notre préoccupation si on arrivait pendant les vacances parlementaires. Organiser par exemple des rencontres, débats, ça allait nous permettre de les aider.
des problèmes que nous voyons. Il n'y a que le problème d'abord sécuritaire.
Qui est une grande priorité. Alors, on va suivre cette session parlementaire si les députés vont revenir sur la question de la sécurité. Mais Lola, vous avez souhaité, hein, comme on avait fait l'émission en début des vacances parlementaires, vous aviez souhaité rencontrer vos élus pour pouvoir leur donner vos préoccupations. 081-890-4969. 081-890-4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Ngoma ya Kwetu, une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Nous revenons à vous, John Baza Lunda, député national élu du territoire des Kalemie dans le Tanganyika. Vous avez suivi les compatriotes hein, qui se sont exprimés, mais qui ont quand même dégagé pour eux ce qu'ils considèrent comme matière prioritaire sur lesquelles ils auraient aimé voir les députés se pencher pendant cette session parlementaire. On vous écoute.
Oui, d'abord il faut préciser que l'avantage que nous avons maintenant au Parlement, c'est que toutes les commissions permanentes du Parlement ont été installées. Et donc le Parlement va fonctionner depuis que nous avons commencé pour la première fois à plein régime. Donc toutes les commissions sont là. Alors je suis parfaitement d'accord avec les différentes analyses pour dire que nous devons prioriser les préoccupations des populations. Et moi-même, j'avais déjà souligné le fait que la sécurité constitue le fondement, parce que sans la sécurité, sans la paix, il n'y a rien qui puisse venir. Alors, il y a Monsieur Olivier, que je salue à partir de Lubumbashi, qui nous exhorte de passer aux faits, hein, que les discours est souvent entendu, et de passer aux faits. Et je peux le rassurer que nous allons passer effectivement dans les faits, parce que c'est cette session qui est la session de contrôle et qui va nous permettre de passer action par action les différentes réalisations du gouvernement. Et aujourd'hui, il a évoqué le cas de Kakobola, par exemple, du barrage de Kakobola et tout ça. Mais écoutez, nous avons ces données. Et je pense que, si je ne me trompe pas, les collègues du coin ont inscrit ce barrage dans le budget actuel. Et donc le travail que nous allons faire, c'est de voir quelle est la réalisation jusqu'à la fin de ce mois. Donc rien n'est encore perdu. Et Monsieur Jérémy, à partir du Haut-Katanga, il parlait de l'insécurité qui serait un acte de sabotage du nouveau régime. Non, ça c'est une analyse extrême. On ne peut pas. Le pays nous appartient. L'avenir, nous devons le construire ensemble, et que nous sommes condamnés, puisqu'il s'agit d'un seul et même pays, nous sommes condamnés de travailler pour que le pays avance. Et aujourd'hui, il y en a qui ont été à qui on a confié le règne du pays, et donc nous sommes condamnés. C'est ça la citoyenneté. Vous pouvez ou ne pas être d'accord sur telle ou telle option, mais ceux qui ont eu le pouvoir pour 5 ans, ils attendent de toute la population cet accompagnement. Mais et le fait qu'il a souligné, Monsieur Jérémy, que moi je considère comme une gangrène, comme un cancer, le tribalisme, ça il faut combattre. On ne peut pas comprendre que nous soyons rentrés très très bas et très très bas dans notre pays où les gens commencent à se regarder en fonction des tribus. Nous sommes rentrés plus de 40 ans en arrière, mais ça c'est très grave. Et moi je pense que au moment opportun, s'il y a des initiatives des collègues pour la modification de telle ou telle autre disposition de la Constitution, moi je prendrai mes responsabilités pour combattre cette histoire-là. Aucun pays ne s'est développé avec le tribalisme. Il n'y a aucune nation qui s'est développée parce qu'elle s'est appuyée sur le tribalisme. On doit combattre ces cancers. Et les gens qui défendent le fait qu'il y ait des nominations, on parle des originaires. Les originaires de quoi? Si vous êtes Congolais, la loi vous donne la possibilité d'occuper des fonctions au Congo, et donc vous n'avez plus de limites. Et donc, nous devons construire une nation. On ne peut pas construire une nation au rabais avec des considérations tribales. Et on doit encadrer les communautés, on doit encadrer les regroupements communautaires ou ethniques, etc., qui ne sont que culturels. Ces regroupements ne peuvent pas être politiques. Il y a des gens qui outrepassent le rôle en s'appuyant sur des organisations ethniques au lieu d'agir sur la culture, ils agissent sur d'autres terrains comme le terrain politique. Là, je suis complètement d'accord avec lui et c'est une lutte que nous devons mener ensemble. On doit aller de l'avant. On ne peut pas développer le pays si nous sommes divisés des considérations tribales.
Mmh. Voilà. Alors, Marcel, vous êtes à Luisa et Justin Fungurume. Marcel, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour également à l'honorable John Banza Lunda qui est l'invité de votre thématique beaucoup plus pertinente, monsieur Pierrot.
On vous écoute, Marcel.
Monsieur Pierrot, moi je pense que nous pouvons voir les principes des latinistes qui disent que res non verba. Nous pouvons quand même nous dépasser pour que nous puissions quitter dans les discours et que nous puissions aller dans les actions. Je vais commencer d'ailleurs pour rejoindre l'interlocuteur ou les co-débatteurs qui est intervenu avant que l'honorable ne prenne la parole. Il a défié les députés nationaux. Par exemple, je défie également Monsieur Pierrot pour le moment là. Je défie les députés de mon territoire de Luisa. Vous allez voir qu'ils étaient en vacances parlementaires et je ne sais pas quel rapport viendront-ils donner à Kinshasa dans le Parlement parce que les territoires des pays qui m'écoutent à travers votre micro ici ne peut pas en aucun cas me contredire que nous avons vu un député qui est venu en vacances parlementaires pour récolter les données de la base de telle sorte que nous puissions voir et qu'il puisse se rendre compte de la situation qui traverse les territoires de Luisa pour le moment. Et monsieur Pierrot, vous allez vous rendre compte que la population du territoire de Luisa vit dans un calvaire total. D'abord, les désenclavements, est-ce qu'ils peuvent savoir dans quel contexte vit le territoire de Luisa aujourd'hui? Et je ne sais pas ce qu'ils vont dire au retour des vacances parlementaires. Quelques-uns quand même des députés qu'il faut féliciter, qui ont même vu, c'était même le devoir des députés provinciaux, les projets agricoles qui ont été initiés par le ministre partant, pour Salut Chimaïdi, qui semblait être dévié, et rejoint la vigilance de certains députés. Et même quand vous parlez, monsieur Pierrot, de la lutte contre la corruption, quand vous pouvez voir comment vous pouvez combattre, monsieur Pierrot, une gangrène ou une antivaleur, quand vous allez vous rendre compte que certains députés, que je ne peux pas faire, que je ne peux pas citer le nom ici, peuvent se compromettre en commettant peut-être cette antivaleur de la corruption. Pensez-vous que de tels députés, monsieur Pierrot, peuvent réellement lutter contre cette corruption?
C'est une question de dénonciation. Cela veut dire aujourd'hui, nous avons les instances nécessaires pour le faire, pour dénoncer. Et notre invité nous a dit que parmi les arriérés parlementaires, il y a cette question de la loi sur la lutte contre la corruption. Mais vous aurez aimé quand même voir les députés chez vous à la base, mais vous vous posez aussi des questions, des éléments qu'ils pourront amener lors de cette session parlementaire. Merci beaucoup Marcel. Justin, vous êtes à Fungurume, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour mon ami Pierrot et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
J'ai dit mille merci pour m'associer à ce sujet d'aujourd'hui. Pourquoi ? Ça bouge ici à Fungurume entre les députés. Cause, c'est quoi ? C'est manque d'emploi. Donc, l'emploi, c'est une priorité ici chez nous à Fungurume. Il y a les sociétés qui sont habilitées à engager les travailleurs. Et que tout le monde, il y a une forte attraction touristique à Fungurume, des gens qui viennent partout ailleurs pour venir chercher l'emploi, puisque dans les lois là-bas, il y a des mining. Chose grave entre deux députés qui sont arrivés dans leur congé parlementaire, ça bouge, monsieur Pierrot. Laisse-moi vous donner cette histoire brièvement seulement. Il y a un député qui est allé descendre, pour ne pas citer son nom, il s'appelle Ilunga Waleng Dede, un député provincial. Il est allé descendre dans les sites là où les gens travaillent, et les Chinois sont en train de maltraiter très mal nos compatriotes. On les fait travailler sans signer les contrats, on les fait travailler. Et un Chinois a poignardé même un Congolais, quelqu'un de Fungurume. Le cas a été observé à l'hôpital d'Ipeta. Et encore un Chinois a déshabillé un Congolais puisqu'il a commis des forfaits sur leur site. Il a dit que non, on te chasse, tu laisses notre tenue. Et on l'a déshabillé. Il a laissé les habits là-bas pour aller en sous-vêtements, je sais pas. Et ça coïncidait, je sais pas si on l'avait signalé, le député. Il est allé sur le terrain, il a trouvé les habits par terre, puisqu'on faisait même montrer les habits qu'on a déshabillés, la tenue qu'on a déshabillé les Congolais là. Et il est passé aux médias, il a publié c'est dans son congé parlementaire. Il y a encore un député qui est en train de le contredire, qu'il ne fallait pas partir là-bas. Il ne fallait pas faire ça. Donc,
Ça dit que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu une même vision. On sait aujourd'hui les conditions de travail des Congolais dans les entreprises à gauche, à droite. Et pour vous, vous aurez aimé voir que ce qui est fait par exemple à Fungurume profite aux Congolais, que les députés se penchent sur la question de ces entreprises qui travaillent dans le secteur minier. Et la question peut être adressée au ministre des Mines. Cela veut dire que les députés ont tout le mécanisme pour pouvoir le faire. Merci beaucoup. Alors, on revient à vous, John Bazalunda, député national élu du territoire des Kalemie dans le Tanganyika. Alors, si vous suivez l'ensemble de nos compatriotes, le souci, c'est de voir qu'il y ait quand même ces contacts entre les députés et leurs élus, électeurs plutôt, et que, de l'autre côté, ils voient qu'il y a quand même des actions qui sont menées au niveau du Parlement et que ces actions soient répertoriées au niveau de la base pour qu'ils sentent quand même qu'il y a, que leurs élus portent à cœur les soucis et les problèmes qui se posent dans leur circonscription, John Baza.
Oui, je suis d'accord avec votre analyse. En fait, le problème qui est là, c'est qu'il faut comprendre le mécanisme. C'est que lorsque les députés se rend en vacances parlementaires, il va justement en contact avec la base. Évidemment, il connaît la circonscription et donc il connaît les problèmes. Mais il y a des problèmes qui s'ajoutent au jour le jour. Comme pour nous, je venais de vous évoquer le cas de Nyunzu. Nous sommes descendus. Les collègues de Nyunzu est arrivé avec les députés provinciaux là-bas. Et la guerre a éclaté là-bas et donc malgré les vacances parlementaires, ils ont fait tout pour que le ministre national de la défense puisse descendre jusqu'à Nyunzu. Et c'est ce qui a été fait. Et donc les députés descendent. Mais là aussi, il faut souligner en fait le calvaire que connaissent les députés nationaux. C'est qu'à la différence de certains pays où les députés nationaux, lorsqu'ils descendent dans les circonscriptions, ils sont dotés des moyens financiers. Vous prenez même la Tanzanie ou beaucoup d'autres pays, on donne de l'argent aux députés pour intervenir directement auprès de la population. Et les députés justifient. Et même le président de la République peut suivre les réalisations des députés. Ça, c'est le modèle tanzanien. Nous, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on n'a pas de dotations particulières. Et donc, nous, notre rôle, c'est de descendre. Alors, quand vous descendez auprès de la population qui a des milliers de problèmes, qui est, la population est dans l'extrême pauvreté, vous voyez que la difficulté devient encore accrue. Et à ce moment-là, il faut les députés obligés d'assister les différentes familles, etc. Et c'est intenable pour tous les autres députés. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est de recueillir ces doléances et revenir et parler au gouvernement, inviter les membres du gouvernement et poser les problèmes et suivre. S'ils ne le font pas, à ce moment-là, nous prenons nos responsabilités. Et donc, nous avons ce devoir de faire ce travail-là. Les amis, Marcel, à partir de Louisa qui parlait de voir les actions, il a parlé du calvaire de l'enclavement du territoire de Luisa, et je pense que c'est la plupart des territoires qui sont enclavés. Si vous référez à l'état des routes, à l'état de connexion entre les différentes villes, nous allons interpeller le ministre des ITPR pour voir dans quelle mesure nous pouvons désenclaver les différents territoires. Et donc, les actions des députés, vous allez les voir. Notre rôle, c'est de légiférer. Je vous ai cité les différentes propositions de loi. Et aussi, il y a les projets de loi qui viendront du gouvernement que nous allons examiner. Nous allons le faire. Et dans le cadre du contrôle, je vous assure qu'avec tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous venons de vivre au niveau de nos bases respectives, je pense que nous avons suffisamment d'énergie et d'arguments pour interpeller les uns et les autres.
Alors, Chico est en Bandaka et Franck à Vienne. Chico, bonjour, merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Pierrot, je salue aussi l'invité John Banzaeli de Kalemie.
On vous écoute, oui.
Oui, Pierrot, en fait, j'ai bien suivi l'invité et les amis qui ont commenté le sujet avant moi. Mais néanmoins, ce que j'ai l'inquiétude, c'est dans le sens que l'invité dit qu'il ne faut pas sanctionner avec les sentiments. Mais Pierrot, je regrette trop, parce qu'on sait que le pays, vraiment le Congo, nos ministres, se comportent mal pour gérer la chose publique. Il y a des détournements. Mais lorsqu'on décrit qu'il y a des détournements, il faut sanctionner. Et le député dit qu'il ne faut pas sanctionner au hasard. Je ne sais pas. Je ne partage pas le même avis avec l'invité. Mais néanmoins, ce que je vais lui dire, c'est ceci. Depuis que les députés rentrent auprès des électeurs pour accueillir les données, les difficultés, les problèmes que les électeurs connaissent dans leur milieu, je ne vois pas l'efficacité quand ils rentrent encore aux vacances parlementaires. Je ne vois pas l'efficacité. Parce que si je vais revenir à la question de la sécurité, je sais qu'à Kalemie, il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité. Dernièrement, ici, on suivait toujours à la radio Capi avec votre confrère François Avemivet qui rapporte l'insécurité et la population déclarait aussi le départ du gouverneur Zoé Kabila. Et lui, John Banza, il est de Kalemie. Qu'est-ce qu'il a fourni comme un effort au niveau national afin de mettre l'insécurité dans la vie de Kalemie? Je ne sais pas. S'il peut me dire qu'il a élaboré, il a demandé ceci, ou il a dit au gouvernement, au ministre, je sais que nous avons un ministre de la Défense. Je ne sais pas.
Alors, on pourra lui poser la question. D'ailleurs, tout à l'heure, il venait d'expliquer qu'il y a eu à Nyunzu, par exemple, les députés élus de Nyunzu, ainsi que les députés provinciaux qui ont fait que le ministre de la Défense puisse se rendre sur place là-bas. Mais vous lui avez posé la question de savoir, y a-t-il eu une démarche qu'il a menée d'une manière particulière par rapport à la question de l'insécurité dans le Tanganyika? On viendra à ça. Et votre souci, c'est de voir que les ministres sont sanctionnés. Et quand l'invité a dit qu'on ne peut pas sanctionner par plaisir, cela veut dire qu'il faut sanctionner quelqu'un avec de preuves. C'est ça aussi votre souci. Chico Franck, vous êtes à Vienne. Merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Bonjour, mon ami Pierrot. Bonjour à l'honorable et votre invité. Bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés.
On vous écoute, Franck.
Oui, merci beaucoup. J'ai tenté de suivre avec beaucoup d'attention les arguments de votre invité. Je crois qu'en tant qu'homme instruit, il y a lieu de prendre acte par rapport aux difficultés auxquelles il fait allusion pour certains députés. On sait l'état dans lequel se trouve le pays dans son ensemble, du point de vue infrastructure, routière et tout ça. Et nous pouvons déjà aussi reconnaître que certains députés ont de la peine pour atteindre leur circonscription électorale respective. Mais je crois que l'honorable député a de la peine pour nous convaincre. Je crois m'adresser directement à lui. La difficulté pour atteindre ces circonscriptions électorales ne devrait pas seulement poser problème pendant le moment des vacances parlementaires, parce que pendant les campagnes électorales, vous vous démenez pour atteindre toutes ces couches oubliées de la population. Donc ça signifie que les efforts qui se sont donnés pour atteindre ces couches pendant la campagne électorale, ils pouvaient aussi se les imposer maintenant pendant les vacances parlementaires, si vraiment les sociales de ces populations étaient leurs préoccupations. Un des aspects, il a tenté de présenter ses arguments, on l'a suivi, mais moi personnellement je lui dis que de 2006 jusqu'à 2020, nous avons assisté à des rentrées parlementaires, nous avons assisté à des allocutions mielées, des promesses nous ont été faites, mais toutes ces promesses, toutes ces allocutions parlementaires tenues au début de chaque rentrée parlementaire n'a aucune incidence sur les vécus quotidiens des citoyens. Donc, ce qu'il est en train de dire qu'il ne faut pas sanctionner de manière abusive, c'est vrai. Mais, monsieur l'honorable, vous voulez encore chercher quelle flagrance, quelle faute? Quand, par exemple, il y a des détournements aux vies et aussi de tout le monde, il y a des terrains qui sont hypothéqués aux vies et aussi de tout le monde, il y a des cas de détournement, on est en train de voir que ça ne marche pas. Vous voulez encore chercher quelle flagrance? Ça, c'est une des questions que je vous pose directement. Et depuis 2006, depuis que l'actuelle constitution du 18 février a été mise en vigueur, depuis que nous avons un parlement, est-ce que vous pouvez nous dire ce ministre qui a été sanctionné à la suite d'un contrôle parlementaire? Vous pouvez vraiment nous dire qu'il y a un mandataire qui a déjà été sanctionné à la suite d'un contrôle parlementaire alors que les soit contrôles parlementaires sont initiés? Mais cela ne rapporte rien. Quand vous voulez dévier le vrai débat, nous devons reconnaître que en RDC, la politique et le clientélisme politique est au-dessus des mérites. Alors, quand le clientélisme politique prend le dessus de tout, alors les gens travaillent pour leur ventre. Les gens ne travaillent plus pour la population. Le vécu, le social des citoyens est oublié parce que les parlementaires, les députés savent qu'ils ont affaire à une population qui ne maîtrise pas d'abord ses droits, qui ne maîtrise pas ses devoirs. C'est comme ça que la même population, on peut se jouer d'elle sur base de discours sophistiques. Et je crois que c'est le moment d'interpeller les citoyens congolais. Citoyens congolais, lève toi, réclame tes droits, prends en charge tes devoirs et assume-toi.
Merci.
Parce qu'on ne peut pas quand même écouter le même discours de 2006 à 2020, des discours de bonnes intentions, mais on n'a pas que les bonnes intentions. La réelle politique, c'est l'effectivité sur le terrain, mon ami Pierrot. La réelle politique, c'est l'amélioration du social des citoyens, et non des promesses, des intentions des
voilà, merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Franck, oui. Merci beaucoup Franck. On va permettre à Elie, qui est en Bandaka, de placer un mot dans ces débats, et on revient à notre invité, parce qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de questions qui lui ont été adressées directement. Il y a Chico qui a voulu savoir s'il lui a mené une démarche par rapport à la question de l'insécurité. Et vous aussi, vous lui posez la question directement. Mais en attendant, Elie est en Bandaka. Elie, juste vous placer un mot dans ces débats. Et on revient à notre invité pour réagir. Elie, bonjour.
Oui, bonjour, merci. J'ai salué l'invité directement. Je voudrais dire que pour les temps des députés nationaux qui étaient venus pour leurs vacances parlementaires, ils doivent retenir que les motions qu'ils introduisent dans les bureaux de l'Assemblée nationale ont pour conséquence des sanctions politiques. Et donc, nous voulons que toutes ces sanctions politiques soient aussi transformées des sanctions judiciaires. Vous avez suivi les députés de l'UDPS qui a introduit la motion, la plainte contre le ministre de l'EPST pour des faits de détournement, parce qu'il est présumé auteur de détournement de fonds publics alloués à l'enseignement, parce que la cour de cassation doit se saisir pour rester en justice cette personnalité. Pourquoi? Parce que dans les motions, la plupart des motions, vous connaissez les motions passées ici à l'Équateur, à la Tchouapa, il y a des gouverneurs qui ont été destitués de leurs fonctions par des motions politiques, et il n'y avait pas de sanctions judiciaires. Il faut traduire le maître entre les mains de la justice, afin que toutes ces personnes subissent la rigueur de la loi. Voilà un peu ma contribution pour aujourd'hui.
Merci. Merci beaucoup, Elie. Alors, on revient à vous, John Bazalunda. Vous avez suivi, il y a ces questions directes qui vous ont été adressées, mais c'est le souci aussi d'Elie, c'est de voir l'émotion se transformer aussi en sanctions quand il y a des cas avérés. Et globalement, comment commentez-vous? Ça vous permet aussi de conclure cet échange.
Oui, je pense que pour ce qui est de Calémie, l'insécurité que j'évoquais, c'était plutôt la guerre qui se vit à Nyunzu. Et donc, nous avons travaillé dans le cadre de notre caucus des députés du Tanganyika, et nous avons alerté le Premier ministre et toutes les autorités nationales, et le Premier ministre a décidé d'envoyer le ministre de la Défense à Niunzhou, et il a été accompagné par nos collègues de Niunzhou qui sont descendus, qui étaient d'ailleurs qui sont encore sur place là à Niunzhou aux côtés de ces populations. Alors l'initiative, parce que Niunzhou tout est juste à la frontière de Kalemi, et donc il y a plusieurs milliers de déplacés, et donc nous avons directement saisi le gouvernement encore une fois pour que le ministre de l'action humanitaire puisse intervenir au bénéfice des populations déplacées. Donc ça, ce sont des actions qui sont menées là-bas, et je pense que c'est dans beaucoup de circonscriptions ça se passe dans ces conditions-là. Alors il y a une analyse qui m'a beaucoup interpellé, c'est celle de Franck à partir de Vienne, quand il dit que la population ne connaît pas ses lois, les lois, etc. Et je crois que c'est ça le combat que nous menons tous les jours, le combat de la citoyenneté. Nous devons avoir des citoyens et laisser le fait d'avoir un pays des militants, un pays de fanatiques. Nous devons avoir des citoyens qui sont appelés à construire le pays. Et il a raison lorsqu'il dit que depuis 2006, il n'y a jamais eu des ministres qui soient tombés, mais attendez, vous allez voir à partir de cette session, et vous allez nous juger dans les actes, parce que nous avons le devoir aussi de faire différemment, d'agir différemment. Alors, Monsieur Eli, qui parlait des sanctions politiques qui doivent être muées en sanctions judiciaires, nous, au niveau du Parlement, lorsque nous devrons prendre ces sanctions, nous transférons les conclusions, les recommandations aux institutions compétentes. Donc, le rôle des autres institutions continue au-delà du Parlement. Donc, je suis d'accord que nous devons aller jusqu'au bout. Et ce qui est important aujourd'hui, je comprends que les attentes sont nombreuses. Nous allons faire notre travail, nous allons légiférer et nous allons contrôler le gouvernement. Mon seul et unique souci, c'est que ce Parlement fasse la différence, cette législature fasse la différence par rapport aux différentes critiques adressées aux précédentes législatures.
Merci beaucoup John Banza Lunda. Je rappelle que vous êtes député national élu du territoire des Kalemi dans les Tanganyika. Merci d'avoir été avec nous et de commenter ces sujets avec les auditeurs des Radio Kapi.
C'est moi qui vous remercie et je salue toute la population des Kalemi et des quatre coins chez moi.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas.
Merci à Alain Goy qui a assuré la mise en œuvre de ce magazine réalisé par J.R. Lungembo. On se retrouve demain vendredi pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Mais je rappelle que cette émission est sur www.radiocapi.net. Merci de votre sympathique attention. Au revoir.